Continuons nos récits sur la vie de l'Empire byzantin, qui a quand même tenu un rôle remarquable au début de l'Église. Et voyons la vie quotidienne des fidèles avant l'invasion musulmane, avant donc le 7e siècle. Le christianisme était bien établi, religion d'État depuis 3 siècles. Certes, plusieurs conversions avaient été opportunistes, comme le seront plus tard les conversions à l'islam, mais le christianisme semblait solidement installé. L'Église comportait 5 grands patriarcats, Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Le patriarcat de Rome avait une place de choix, car il avait été le trône de Saint-Pierre. Mais, et c'est là une question importante, est-ce une prééminence d'un point de vue doctrinal ou une simple question, pourrait-on dire, de courtoisie, de dignité politique? Finalement, les catholiques optèrent pour la première solution et les orthodoxes pour la deuxième, malgré la disparition, beaucoup plus tard, des patriarcats d'Alexandrie et d'Antioche. C'est un des sujets de discussion autour des tentatives de réunification. Est-ce que le patriarcat de Rome est vraiment le premier, mais le premier parmi des égaux, primus inter pares, comme on dit en latin, ou a-t-il vraiment une place de choix et doit-il, est-il plus haut que les autres? À noter cependant que dès 602, l'empereur Phocas déclara « Le trône apostolique du bienheureux apôtre Pierre reste la tête de toutes les églises ». C'était un empereur. Mais l'ambition, pour ne pas dire l'orgueil, a vite fait de reprendre le dessus. À l'époque, au VIe siècle, les diocèses dépendaient chacun d'un patriarche particulier. Il y en avait 500 dans le patriarcat de Constantinople. Les monastères étaient le lieu privilégié de recrutement des évêques. Un évêque devait avoir 35 ans et n'avoir ni enfant ni petit-enfant. Il était élu à vie et ne pouvait voyager qu'avec une autorisation spéciale du patriarche. Les sacrements étaient toujours administrés dans les églises, sauf le cas ici que les fidèles pouvaient être autorisés à emmener chez eux. Le baptême se faisait par triple immersion lors des grandes fêtes. Les enfants étaient baptisés dans leur deuxième année et confirmés aussitôt après. Ils portaient des vêtements blancs pendant toute la semaine suivant la cérémonie. En ce qui concerne la pénitence, il n'y a plus de pénitence publique depuis le VIe siècle, mais certaines fautes graves ne peuvent recevoir l'absolution que du patriarche, notamment les fautes contre nature. On n'en est plus là maintenant. La communion est fréquente, les fidèles pieux sont autorisés à communier chez eux avec l'Eucharistie qu'ils ont emporté à domicile. L'extrême-onction aussi est fréquente. En revanche, il n'y a pas de cérémonie précise pour le mariage, ce qui ne signifie pas qu'il n'en ait pas eu, comme le prouvent les drames familiaux des classes dirigeantes. Crèches, orphelinats, asiles de vieillards, hôpitaux, hospices, en particulier pour lépreux, remontent à Constantin et sont inscrits au Code Justinien en 521. C'est la grande invention du christianisme. Ces œuvres étaient dotées de revenus importants. Une loi de 529 oblige l'évêque à inspecter les prisons et a confié à l'évêque un droit de contrôle sur les exécutions testamentaires. Une autre loi de 530 contrôle les orphelinats, le rachat des captifs et l'entretien des églises. Les initiatives privées ne sont pas rares. Théodora, l'épouse de Justinien, a choisi un vaste et beau palais pour en faire un couvent destiné aux filles repenties. Dès le début, la charité a été au premier rang des activités des chrétiens. Il ne faut pas l'oublier. Le repos des dimanches était pratiqué au VIe siècle, peut-être même avant. Les principales fêtes étaient, on pourrait presque dire dans l'ordre, Pâques, la Pentecôte, l'Ascension, l'Épiphanie, puis la Purification, l'Exaltation de la Sainte Croix, la Dormition et la Nativité de Notre-Dame. Noël apparut en Occident au IVe siècle, mais l'Épiphanie resta toujours préférée à Noël en Orient. Le clergé était parfois marié et souvent relativement ignorant. Les séminaires n'étaient pas organisés, ce qui n'empêchait pas l'ensemble des fidèles d'être très pieux, comme l'a montré sa puissance d'évangélisation auprès des Russes et des Bulgares dans les siècles qui vont suivre. L'accord conclu en 680 entre l'Orient et l'Occident ne dura malheureusement pas très longtemps. En 692, l'empereur Justinien II convoqua sur le Bosphore, dans une grande salle à coupole, sous le nom de Concile Intruglio, Concile sous la coupole, une assemblée dont les décisions étaient le signe d'un désir de distinction, pour ne pas dire de séparation d'avec Rome. Ce concile, entre autres, envisageait le mariage des diacres et des prêtres, ou du moins l'ordination d'hommes mariés. La différence est réelle entre ordination d'hommes mariés ou le mariage des prêtres. Ne serait-ce que parce que, devenus veufs, les hommes mariés ordonnés n'avaient pas le droit de se remarier. Le concile fermait le sanctuaire à tout laïc, ce qui est encore le cas dans la liturgie byzantine, où toutes les cérémonies se passent derrière l'iconostase. Il accorde un certain pouvoir sur le gouvernement de l'Église. Il accorde à l'empereur un certain pouvoir sur le gouvernement de l'Église. Le ton des évêques orientaux indique leur hauteur vis-à-vis de l'Église d'Occident. Le pape refusa sa signature, seuls certains articles furent approuvés, mais un siècle plus tard, le Concile Intruglio fixa la physionomie des églises orientales et règle encore la pensée des clergés orientaux de notre époque. Il convient donc de ne pas le négliger. Constantinople, Byzance cherchait à se distinguer toujours davantage de Rome. En 717, l'empereur Léon l'Isaurien monta sur le trône, alors que l'Empire semblait à la veille de disparaître. Les Bulgares et les Slaves envahissaient le sud de l'Europe. Une flotte musulmane de plusieurs centaines de navires, disent les chroniqueurs, mettent le siège devant Constantinople. Léon III avait à sa disposition une arme redoutable, le feu grégeois, mélange de bitume et de salpêtre qui continue à brûler en flottant sur la mer. Comme la flotte musulmane était en bois, elle perdit tous ses vaisseaux sauf cinq, et en 718, les Arabes vaincus rentrent en Syrie après avoir subi de lourdes pertes. Léon III conclut une alliance avec les Bulgares en leur payant un tribut. Peu de temps après, à l'autre bout de l'Europe, Charles Martel remportait la bataille de Poitiers. Le vent avait tourné. En 739, Léon III mit en déroute une cavalerie arabe qui venait de Perse et s'était aventurée dans l'Asie mineure, au cœur de l'Asie mineure, ce qui assura pour un bon moment la tranquillité de l'Empire grec. Léon III fut également un grand administrateur. Il promulgua un ensemble de lois dignes de Justinien, comprenant entre autres un code de navigation commerciale, un code militaire et un code rural afin d'améliorer la condition des paysans. Mais dès 727, il commencera une action contre les icônes vénérées dans tout son entourage. Tout ce que nous avons dit sur le gouvernement byzantin prouve que ce n'était pas n'importe quoi, c'était vraiment un État et un État qui faisait des choses remarquables. Donc, dès 727, malheureusement, il entreprit une action contre les icônes, art typiquement byzantin qui est une des merveilles du monde, surtout lorsqu'elles sont sous forme de mosaïque. Les artistes ne se contentaient pas d'assembler des éléments de diverses couleurs, des cailloux selon leur vocabulaire, mais ils donnaient à chacun d'eux une inclinaison pour adapter la lumière à refléter suivant leur inspiration. Que ce soit à Rome, à Ravenne, à Constantinople, le résultat est d'une telle qualité qu'on a pu dire que la peinture est la mosaïque du pauvre. De fait, passé le Xe siècle, on n'a jamais vu de mosaïque de telle valeur. Donc Léon III s'attaqua aux icônes en 729, lorsqu'il fit détruire une image du Christ se trônant au-dessus d'une porte du palais. Il s'ensuivit une émeute que Léon III fit réprimer dans le sang. Il déposa le patriarche qui lui résistait, les papes se dressèrent contre l'iconoclasme, un concile romain condamna l'hérésie en 731. En réponse, Léon III s'empara des biens de l'Église. Les choses en restèrent là jusqu'à 740, puis empirèrent avec son successeur Constantin sec d'Icoponyme, surnom scatologique dû vraisemblablement à un accident survenu pendant son baptême. Les catéchumènes étaient nus, sans couche, puisqu'ils avaient environ 2 ans, on les trempait dans de l'eau tous les uns après les autres, mais si Constantin, lors de son baptême, a eu des ennuis, s'est souillé, et en même temps souillé toute la coupe, ce qui était tout le bateau, le baptistère, ce qui a été assez, ce qui s'est remarqué. Quelles sont les origines de l'iconoclasme, toujours prêt à ressurgir, comme en témoigne plus tard le calvinisme et certaines tendances actuelles qui bannissent toute dévotion devant une statue? On en a vu des exemples, même dans notre paroisse, où trop de dévotion était, pour les images, était regardée d'un mauvais œil. Il est certain que les religions païennes aimaient fort les images et leur rendaient un véritable culte d'adoration. On allait jusqu'à barbouiller les statues du sang des victimes. Mais après l'incarnation, avec laquelle le Christ était vraiment un homme né d'une vraie femme, les choses ont changé. Comme le dit saint Jean Damascène, autrefois, Dieu n'ayant ni corps ni figure ne pouvait être représenté par aucune image. Mais depuis que Dieu a été vu dans la chair, je représente en image ce qu'il a rendu visible. Se rassurer des images de personnes respectables ou jugées telles est habituel de nos jours. Bien des directeurs ou des secrétaires ont sur leur bureau la photo de leurs parents ou de leurs enfants. Et la tête de femme des timbres poste ne donne aucune envie ecclésiastique, idolâtrique. Pardon. La cause officielle de l'iconoclasme est donc secondaire. Il y a d'autres causes plus profondes qui ont été avancées. Il est certain que l'influence des Juifs qui tenaient une place importante dans les finances de l'Empire n'a pas été négligeable. Il y avait aussi, et peut-être surtout, le désir des empereurs de montrer qu'ils étaient les maîtres de tout, même de ce qui touchait les choses saintes. L'empereur Léon III n'hésita pas à écrire « Je suis empereur et prêtre ». La querelle s'envenima avec Constantin sec copronyme, qui alla plus loin que l'image et les reliques, et s'en prit au culte de la Vierge et des Saints, un calvin avant la lettre. Son beau-frère leva l'étendard de la révolte en 740, il fut porté en triomphe par l'étendard, fut porté en triomphe par la foule et put croire à sa victoire pendant quelques mois. Mais Copronyme reprit le pouvoir et poursuivit son œuvre avec acharnement. En 754, il réunit un concile avec des évêques à sa dévotion, qui multiplie et décrée Yamatem, images brisées, brûlées, mosaïques arrachées, peintures couvertes d'immondices, aucun frein dans la limite des sacrilèges. Mais le drame va s'accentuer dans le sang, nota un chroniqueur qui, parlant de la prison du prétoire, note « À un moment donné, cette prison compta jusqu'à 342 moines, et pas un auquel il ne manqua ou les cheveux, ou la barbe, ou les oreilles, ou le nez, ou les yeux, ou la main. » C'est alors que les papes Étienne et Grégoire se détachèrent de l'empire hérétique pour chercher chez les Francs un appui plus conforme au christianisme. Le roi Pépin, successeur de Charles Martel, donna à la papauté quelques territoires pris sur les Lombards ou à ceux qui restaient à Byzance, c'était les états du pape. En 774, Charlemagne acheva la conquête de l'Italie, sauf quelques villes méridionales et Venise. Constantin mourut en 775. Mettant fin à cette triste période qui vit des trésors anéantis, comme plus tard les sacs des protestants ou des révolutionnaires russes. Léon IV succéda à Constantin V en 775. Irène était très attachée au culte des images. À sa mort en 780, la pacification était acquise pour un quart de siècle. Comme Constantin, le successeur désiré était un enfant. Comme Constantin, le successeur était un enfant, Irène assuma le gouvernement de l'Empire. Elle remit l'ordre et remonta la pente de l'iconoclasme avec beaucoup de prudence. Un seul exemple. Lors de la préparation du concile de Nicée, l'armée se montra menaçante. Irène n'hésitera pas à donner congé à son armée et à en embaucher une autre. Le concile de Nicée, élu en 787, tous les décrets de Léon III et de Constantin Copronyme furent annulés et les anathèmes annulés aussi. Des proclamations théologiques devinrent une base précise pour les défenseurs du culte des images. Elle fut écartée du pouvoir entre 790 et 797, chassée par son fils Michel Livrogne, qu'elle renversa ensuite sans hésiter à lui faire crever les yeux. Malgré son crime, cette impératrice rendit de grands services à la chrétienté. Pendant ce temps, Charlemagne était couronné empereur d'Occident en 800. On dit que des projets de mariage ont existé entre Charlemagne et les princesses de Byzance. De toute façon, Irène mourut en 802. Il y eut une deuxième poussée d'iconoclasme entre 815 et 829. En 842 mourut le dernier empereur iconoclaste, la veuve de son fils, l'impératrice Théodora, qui établit définitivement le culte des images. En mars 843, il y eut une cérémonie d'action de grâce qui est célébrée tous les ans comme fête de l'orthodoxie. Irène et Théodora, deux femmes qui, dans une certaine mesure, ont sauvé le culte des images. Et on dira ensuite que le christianisme est misogyne.